Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
Oui, bonjour tout le monde. Donc, je veux saluer, bien sûr, la ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique pour l'ensemble du Québec et la docteure Drouin, responsable Santé publique à Montréal. Je veux aussi saluer la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau, puis dire que c'est elle qui est responsable là, de s'assurer qu'on donne tous les services, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués. Donc, je lui ai demandé de coordonner tous les services nécessaires pour aider, en particulier les municipalités de la CMM, à passer au travers cette crise. Avant le bilan du jour, je veux revenir sur toute la question concernant les masques. Bon, vous l'avez vu, on le recommande fortement. Je veux être très clair avec les Québécois, en particulier dans la CMM, compte tenu de l'ampleur de la pandémie. Donc, je veux répéter, c'est très important, puis on recommande très fortement tous les gens qui utilisent le métro, l'autobus, le transport en commun dans la CMM de porter un masque. On veut aussi, puis je veux être clair, on le sait, il y a des quartiers qui sont plus chauds, à Montréal, à Laval. C'est important, encore plus dans ces quartiers-là, que tout le monde porte un masque. Et pour aider, et après discussion avec la mairesse Valérie Plante, ça me fait plaisir d'annoncer qu'on va donner 1 million de masques à la mairesse de Montréal, à la ville de Montréal, puis on va remettre 6 millions de dollars à l'ensemble des sociétés de transport de la CMM. Le but, c'est de distribuer les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, sont pas capables de se procurer un masque ou de se faire un masque, bon, on va les rendre disponibles. Ça va prendre quelques jours avant que les masques soient à l'entrée des portes de métro, d'autobus, mais au moins avec ce million de masques, puis avec l'argent qu'on va transférer aux municipalités et aux sociétés de transport, on pense qu'on va être capable, là, dans les prochains jours, de donner gratuitement des masques à tous ceux qui n'ont pas de masque. Et puis, je le répète, surtout dans le transport en commun, surtout dans les zones chaudes, c'est important de porter le masque. Bilan du jour, on a 50 nouveaux décès, donc un total de 3401. Je veux offrir mes condoléances à toutes les familles, tous les proches des 50 victimes. On a 41 420 cas maintenant qui sont confirmés. C'est une augmentation de 796. C'est important, par contre, de rappeler que sur les 41 000 cas, il y en a au moins 11 000 qu'on a testés négatifs puis qui sont guéris. On n'a pas testé tout le monde, donc il y en a au moins 11 000 qui sont guéris. Dans les hôpitaux, on avait 1 822 personnes hospitalisées, c'est une diminution de 13. Dans les soins intensifs, on avait 191 personnes, c'est une augmentation de 1. Donc, c'est important de voir les tendances, pas regarder seulement les chiffres sur une journée, mais on peut quand même voir qu'il y a des bonnes nouvelles. D'abord, le nombre de décès, quand j'ai vu 50 ce matin, évidemment, on ne peut pas se baser seulement sur une journée, mais disons que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un nombre moins élevé. Nombre de cas aussi, malgré l'augmentation du nombre de tests, on est en bas de 700. Donc, ça aussi, ça fait un certain temps qu'on n'avait pas vu ça, en bas de 700. Puis les hospitalisations, encore là, il faut les regarder sur une tendance, mais on peut dire que depuis un certain temps, il y a une tendance à la baisse. Donc, c'est encourageant. Concernant les tests, on est en train de tester systématiquement tous les employés des CHSLD, publics et privés, même les employés qui n'ont pas de symptômes. Et puis, la docteure Drouin me disait ce matin là, qu'elle atteint ses objectifs, que 3000 tests dans la communauté. Donc, content de voir que ça avance bien à Montréal. Bravo, docteure Drouin. Je veux bien sûr revenir sur ma rencontre d'hier avec les PDG des centres de soins et de services sociaux de la grande région de Montréal. Un certain nombre de conclusions. D'abord, la première, puis bon, il fallait s'y attendre, le grand défi qu'on a, c'est le personnel. C'est d'attirer plus de préposés, d'infirmières, de travailleurs dans le réseau de la santé, en particulier dans les CHSLD. Donc, il y a plusieurs façons, évidemment, d'attirer des gens. Il y a le salaire. Bon, vous avez vu, on a mis des primes qui sont temporaires. Puis, comme je l'ai souvent répété, on espère avoir une entente avec les syndicats pour que ces primes-là deviennent permanentes, pour que ça soit plus attrayant, par exemple, qu'une préposée commence, au lieu de commencer à 21 $, commence à 25 $, bien, veut pas, c'est important. Mais ce n'est pas seulement une question de salaire, parce que on est dans une situation où, étant donné qu'il manque d'employés, bien, les employés qui sont là en nombre moins grand, bien, travaillent très fort, et d'ailleurs, j'en profite encore pour les remercier, mais il faut que notre société valorise davantage ces personnes-là. Puis j'ai comme un message, je me rappelle, à l'adolescence, puis je l'ai vu avec mes gars, on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, j'incite les jeunes à regarder la possibilité d'aller se former, d'aller travailler dans le réseau de la santé. Vous savez, dans la vie, c'est important que ce qu'on fait, ça soit valorisant. Il semble que d'aller s'occuper d'autres personnes, des personnes plus vulnérables, plus âgées, des personnes malades, il me semble que c'est valorisant. Donc, je lance une espèce d'appel aux jeunes, appel aussi à tous ceux qui ont perdu leur emploi dans des secteurs où ça va peut-être être plus difficile de revoir ces emplois-là. Considérez aller suivre une formation parce que, évidemment, on a besoin de gens. Puis avec le vieillissement de la population, ça va être encore de plus en plus vrai dans le réseau de la santé. Donc, je reviens sur ma rencontre avec les PDG des centres de santé. C'est sûr que, un, on manque depuis des années de personnel. Deux, on manque de personnel qualifié. Bon, vous l'avez vu, même pendant la crise, on a demandé aux gens de s'inscrire sur « Je contribue », même s'ils n'ont pas de qualification. Donc, évidemment, quand il vient le temps d'appliquer des procédures pour minimiser les risques d'infecter les résidents, bien, c'est plus difficile quand il y a des personnes qui n'ont pas toutes les qualifications. Donc, très, très important, si on veut changer les choses, d'avoir plus de personnes qualifiées dans nos réseaux. Dans les problèmes qui ont été soulevés, parce que ce que je demandais au président des centres de santé, mais aussi de CHSLD, qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'on doit changer pour l'avenir. Actuellement, il y a certains CHSLD qui n'ont pas vraiment de patron. Bon, pour toutes sortes de raisons, dans les dernières années, il y a eu des restrictions budgétaires, puis je ne veux pas critiquer ça. Là, l'idée, c'est de dire, c'est important qu'il y ait un patron ou une patronne par établissement. On ne peut pas imaginer, moi, qu'une personne soit responsable de plusieurs établissements. Là, c'est un esprit d'équipe, là, puis quand on veut s'assurer que les directives soient suivies, c'est important qu'il y ait un patron ou une patronne. L'autre chose qui nous a été dit aussi, tout le personnel qui fait de la prévention des infections. Bon. Quand il n'y a pas de pandémie, là, puis qu'on est obligé de mettre en place certaines restrictions budgétaires, c'est tentant de dire, bien, les personnes qui font de la prévention des infections, peut-être des postes, pas peut-être, il y a des postes qui ont été enlevés dans les dernières années, bien, on se rend compte que ces postes-là sont importants. Même si peut-être qu'on voit que c'est moins utile quand il n'y a pas de pandémie, bien, c'est important que ces postes-là soient remis en place. L'autre sujet qui a été discuté, puis qu'on avait déjà parlé ici, c'est toute la question des CHSLD privés. C'est sûr qu'un PDG de CIS ou de CIUS, quand il y a un CHSLD public, bien, ce sont ses employés, donc plus facile là, de mettre en place des directives. Quand c'est géré par le privé, oui, on peut faire des inspections, oui, on peut demander de rendre des comptes, mais c'est moins facile. Donc, je répète ce que j'ai déjà dit, là, on n'exclut pas, dans la réforme qu'on prépare actuellement, que tous les CHSLD puis les centres où il y a beaucoup de soins, où on a besoin de médecins, d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires formés, ça devienne tout public. J'ai entendu plusieurs PDG dire hier soir, oui, ce sont des milieux de vie, mais ce sont aussi des milieux de soins, aussi importants que les hôpitaux. Donc, nos hôpitaux sont publics. Je pense qu'il faut sérieusement se poser la question, est-ce que nos CHSLD devraient tous être publics? Puis, je ne veux pas lancer la pierre là, aux gestionnaires dans le privé, parce qu'il y en a qui font un très bon travail, mais c'est juste quand ça ne va pas bien, à part la tutelle, c'est difficile pour nous d'intervenir. Bon, l'autre chose que les PDG m'ont dit, puis si on le savait, on a beaucoup de locaux qui sont vétustes. On a encore des résidences où il y a deux résidents par chambre. C'est évidemment pas souhaitable. C'est déjà prévu dans nos maisons des aînés qui vont remplacer les CHSLD qu'il y ait juste un résident par chambre, que les chambres soient plus grandes. Évidemment, on ne peut pas juste dire on va attendre que toutes les maisons des aînés remplacent les CHSLD. Il va y avoir un grand travail à faire de rénovation dans nos CHSLD actuels. Bon, vous avez vu hier le président du Conseil du Trésor qui a devancé beaucoup de travaux dans les maisons des aînés, dans les CHSLD, donc dans les prochains mois. On va y travailler très fort. Puis moi, c'est un engagement que je prends. Là. Moi, j'en fais une responsabilité personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas fiers, puis moi le premier, de ce qui est arrivé dans les CHSLD. Donc, je veux m'assurer que dans les prochains mois, évidemment, on ne réussira pas en quelques mois à tout changer, incluant d'avoir des maisons des aînés pour tout le monde, puis d'avoir le personnel formé pour tout le monde. Mais faut être capable de tendre vers ça le plus rapidement possible. Puis moi, j'en fais un engagement personnel. Je termine avec mes remerciements du jour. Mes remerciements du jour sont pour les parents, puis les familles. C'est la Journée internationale des familles. Je peux imaginer, je suis parent, je peux imaginer que d'avoir des enfants à la maison 7 jours par semaine pendant 2 mois, on les aime beaucoup, nos enfants. Mais ça peut être prenant et je me rappelle, entre autres, de mes deux gars à l'adolescence. Disons qu'ils ne sont pas toujours dociles, pour utiliser un mot qu'on a utilisé dans les dernières semaines. Donc, bravo aux parents, puis merci pour votre patience. Puis je le sais qu'à Montréal, puis dans les écoles secondaires, il y a encore beaucoup de semaines devant nous avant qu'on puisse les voir retourner à la maison. Par contre, sans vouloir tourner l'affaire dans la plaie, beaucoup de parents, j'ai reçu beaucoup de courriels dans les régions du Québec, étaient très, très, très heureux du retour à l'école de leur enfant, qui s'est bien passé en passant. En terminant, je continue à répéter la même chose. Le virus ne partira pas dans les prochains mois, même peut-être pas dans les prochaines années. Donc, il faut s'habituer aux nouvelles consignes. Il faut s'habituer à porter un masque. Il faut s'habituer à toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Il faut s'habituer à se laver les mains avec du savon régulièrement. Je sais que ce n'est pas facile, mais en même temps, moi, j'ai confiance que les Québécois sont capables de s'ajuster et puis de la gagner, cette bataille contre le virus. Je compte sur tous vous autres, les Québécois. Merci. Few words in English. Good afternoon.
Bon, les nouvelles sont bonnes.
Oui, ça fait du bien. Hein?
Écoute, c'est vendredi. Puis là, faut pas... C'est quoi l'expression « une hirondelle ne fait pas le printemps »
Voilà.
Mais quand même, il faut les prendre, les bonnes nouvelles, oui. quand elles passent.
Oui.
Bon.
50 décès, donc c'est beaucoup moins qu'hier, en tout cas, 131. 50 décès seulement aujourd'hui. C'est toujours un décès de trop, mais quand même, 3401. On est à 41 420 cas confirmés. C'est une augmentation de 696, donc sous la barre des 700 depuis un bon bout de temps. Ça, ça fait du bien. Les hospitalisations aussi, 1822 personnes hospitalisées, une diminution de 13. Et là, dans ce cas-là, on voit une certaine tendance à la baisse là, depuis quelques jours. Alors, c'est encourageant. Pour les personnes aux soins intensifs, on parle de 191 personnes, une augmentation d'une seule.
Voilà, voilà. Et là, bon, on est en train de tester tous les employés de CHSLD publics et privés, même ceux qui n'ont pas de symptômes. Ça, c'est positif. L'autre chose aussi, il nous a fait un petit compte-rendu de sa rencontre avec les PDG des CIUS, là, puis des CHU, les centres hospitaliers universitaires. Et puis là, ben. Là, il a réitéré, là, ça se peut qu'on soit dans une position où on doive, dans le fond, rendre les CHSLD privés, les rendre tous publics.
Oui,
hein, il a dit
pas
ça.
Exclu, ouais.
Ça prend un patron par CHSLD,
ouais.
Alors que c'est pas le cas présentement. Il y a une direction à l'intérieur des CIUS et des CHU. Et là, ben, la période des questions commence, Julie-Christine.
Alors, on l'écoute.
Philippe Bonneville, Cogeco.
Bonjour, M. Legault. Vous avez dit récemment bon, que vous ne pouviez pas rendre le port du masque obligatoire dans le métro parce qu'il n'y avait pas suffisamment de masques. On n'était pas en mesure de pouvoir les distribuer, tout ça. Là, maintenant, on annonce 1 million de masques. On sait que dans le métro de Montréal, présentement, on n'est pas à 500 000 usagers par jour. On est peut-être autour de 50 000, 10 %. Maintenant qu'on a ce million de masques-là, que la distribution sera mise en place à l'entrée des stations, qu'est-ce qui vous empêche maintenant de rendre le port du masque obligatoire dans le métro?
Bon, d'abord, je ne l'exclus pas. Je vais être très clair. J'aimerais beaucoup mieux que les personnes respectent les consignes, comme ça s'est fait pour les autres consignes qu'on a annoncées depuis le début de la crise. Et, bon, oui, effectivement, ça va prendre un certain nombre de jours avant que les masques se rendent à la porte de chaque métro, chaque autobus. Donc, je veux voir comment ça se passe. Je veux voir aussi si les gens le portent ou non, le masque. Ça donne rien de rendre quelque chose obligatoire si c'est déjà fait en pratique. Donc, on ne l'exclut pas, mais on va suivre la situation dans les prochains jours.
Prochaine question.
Duchesne du Journal de Montréal. Vous avez parlé du manque d'employés dans le réseau de la santé. Ils sont aussi très nombreux là, à avoir été infectés par la COVID-19. Est-ce que ceux qui continuent de travailler en ce moment peuvent s'attendre à voir leurs vacances annulées cet été?
Bon, d'abord, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas d'annuler des vacances, mais en même temps, à partir du moment où il manque d'employés, on peut pas commencer à confirmer des semaines de vacances dans les prochaines semaines. Moi, j'ai bon espoir, je l'ai dit, là, j'ai bon espoir que dans les prochaines semaines, on va avoir quelques milliers d'employés qui vont revenir de leur quarantaine. Puis ça va permettre aux employés de prendre des vacances. Puis c'est pas notre intention là, d'interdire les vacances. Tout le monde a besoin de vacances. Mais on n'est pas là actuellement. Là. On fait juste attention pour pendant qu'on est dans la crise, pendant qu'on est... pas sous contrôle. Moi, j'espère dans les prochaines semaines qu'on va réussir à reprendre le contrôle, puis là, on va pouvoir donner des vacances.
On va y aller avec
toi. Oui, Daniel.
Il y a des discussions qui se font actuellement avec les syndicats, et comme le dit le premier ministre, notre intention, c'est d'en donner des vacances. Alors, les états passés, il ne faut pas s'attendre à ça, mais on espère et on pense qu'on va être en mesure d'en donner un minimum de vacances et des syndicats, les instances syndicales sont au courant actuellement du plan qu'on est en train de faire. Là. Et je pense que l'objectif, c'est clair, c'est d'en donner des vacances cet été, le plus possible.
Yves Poirier, TVA Nouvelles.
Donc, du travail important des parents, vous les avez remerciés. Je tiens à féliciter ma femme qui fait du télétravail à temps plein et de l'enseignement à domicile depuis 2 mois. Qu'est-ce que vous attendez des professeurs en ce moment du niveau primaire pour le Grand Montréal? Est-ce que vous attendez une implication, plus grande implication de leur part, par exemple, au niveau de l'enseignement à distance?
Oui. Ça a l'air presque d'une question plantée, là, parce que j'ai posé la même question à Jean-François Robert ce matin. Bon, d'abord, on s'attend que les enseignants offrent une prestation de travail complète. Ensuite, on s'attend d'un suivi serré des enseignants auprès des enfants. On s'attend même à ce qu'il y ait un crescendo dans les prochaines semaines. C'est important là, de le dire, puis je le répète, l'année scolaire n'est pas terminée. Même si les écoles à Montréal n'ouvriront pas avant le mois de septembre, là, l'année scolaire n'est pas terminée. Donc, il va y avoir un bulletin qui va être fourni, puis c'est sûr qu'il va y avoir une part de jugement, mais il y en a des enfants qui vont réussir, il y en a qui vont pas réussir à passer au prochain niveau. Bon, déjà, il y a 60 à 65 % de l'année scolaire qui avait eu lieu, donc ça va évidemment servir de base, entre autres, pour faire cette évaluation, des devoirs, des capsules, bon, il y a les émissions à Télé-Québec, les discussions téléphoniques entre l'enseignant puis l'enfant, par courriel, par rencontre virtuelle. C'est sûr que c'est pas idéal. Je l'ai dit hier, puis je le répète, moi, mon choix, puis je pense que pour le bien des enfants, ça aurait été de réouvrir les écoles. Mais compte tenu des contraintes qu'on a, j'allais dire à cause de la santé publique, mais pas à cause de la santé publique. Je comprends très bien les raisons pourquoi la santé publique arrive à cette conclusion-là. Mais compte tenu des contraintes qu'on a, je pense que c'est important qu'on ait la collaboration, effectivement, des parents quand ils sont capables d'aider, puis que les enseignants parlent. Vous savez, il y a 20-25 % des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, là, dysphasie, dyslexie, troubles d'attention, etc., autisme. Les enseignants les connaissent, ces enfants-là. Donc, on demande aux enseignants peut-être porter une attention spéciale sur ce 20-25 % d'enfants.
Kathleen Lévesque, La Presse.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez fait un appel aux jeunes pour qu'ils aillent travailler, prendre le chemin vers les établissements de santé. Or, à Montréal, on le sait, c'est l'hécatombe. Il y a des quartiers chauds où les travailleurs de la santé, d'ailleurs, sont devenus des vecteurs importants de la propagation du virus. Est-ce que faire appel à ces jeunes-là, compte tenu du portrait actuel, est-ce que c'est pas leur dire que vous allez servir, vous allez être de la chair à canon, finalement?
Ouais. Non, pas du tout. D'abord, on a du matériel de protection en quantité suffisante. Quand on utilise bien le matériel de protection individuelle, il n'y a pas de risque pour l'employé. On espère évidemment aussi que cette pandémie va devenir sous contrôle, mais c'est clair que dans une société vieillissante, toute proportion gardée, le nombre de personnes dans le réseau de la santé va être croissant. Donc, il faut que ça soit une profession qui soit plus valorisée financièrement, donc que les salaires, ou surtout les salaires de départ, soient plus élevés. Puis, comme société, ben, il faut trouver le moyen aussi de valoriser cette profession-là. On essaye de le faire depuis le début en parlant de nos anges gardiens, là, mais on se rend compte plus que jamais comment ces personnes-là ont un rôle important à jouer dans notre société. Donc, c'est tout un défi de société qu'on a devant nous.
OK. Philippe Bonneville, notre reporter, est là-bas. Si jamais il arrive une déclaration fracassante ou une nouvelle, là, vous la connaîtrez, ne vous en faites pas. Luc Lavoie, tu as écouté ça?
Oui, j'ai écouté ça.
D'abord, tu dois être content, comme on l'est tous, que les chiffres... pour aujourd'hui, il faut faire attention, mais pour aujourd'hui, il y a des bons chiffres.
Ben, il y a des bons chiffres, puis on les prend. Quand ça passe, là, on se fait pas d'illusions, mais quand même, j'aime mieux ça 50 que 150.
Là, on s'entend, on s'entend.
Alors, bon. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il a donné, encore une fois, c'est une très bonne conférence de presse. T'sais, il a parlé longuement de sa rencontre avec les PDG des centres de santé.
Oui.
Puis, il y a une chose qui m'a frappé. Il a dit, on est déjà en train de mettre au point une réforme. Donc, la santé va traverser une nouvelle réforme. Il dit aussi qu'ils vont accélérer les travaux dans les CHSLD, des bâtiments qui sont vétustes.
Les maisons pour aînés que tu as toujours appuyées.
Et j'espère qu'ils vont entreprendre la construction rapidement, là, qu'ils ne se barreront pas les pieds dans tout. Il a donné des masques à Montréal, 1 million de masques, puis 6 millions de dollars pour en acquérir d'autres.
Hein. Oui, pour les sociétés de transport.
Ça revient, oui, Bernard, vas-y.
Sur les CHSLD, j'ai pensé à toi. Quand il a dit « ça prend un patron ou une patronne par CHSLD », je me suis dit « ça, Luc va aimer ça ».
Ben, effectivement, j'ai aimé ça. C'est presque renversant de savoir que dans des établissements comme ceux-là, il n'y a pas un patron. Je comprends pas. Je comprends pas comment ils ont pu en venir.
Ben, ils ont des directions, là, les soutiens aux personnes en perte d'autonomie. Là, à l'intérieur des CIS et des CIUS, ils ont une direction. Puis là, moi, ce qu'on comprend, c'est que cette direction-là va s'occuper de tous les CHSLD du CIUS ou du CIS. Mais t'as pas une personne redevable.
T'as pas un boss.
Non, c'est ça. Par CHSLD, t'en as pas de boss. T'en as plus. T'en as déjà eu. Mais quand ils ont fusionné, ils l'ont. Ben, il est disparu.
Ben, en tout cas, je suis content là, que dans la crise, on règle les problèmes à mesure qu'ils se présentent devant nous. Et l'autre bonne nouvelle pour moi, c'est qu'ils ont entrepris de tester tout le personnel soignant.
Ouais.
Comment ça se fait que ça n'avait pas été fait avant? J'y peux rien.
Dans les CHSLD.
Ouais. Ouais. 47 000 personnes vont être testées.
Ouais. Ouais.
Et ceci à raison de 4 000 par jour. Il paraît que c'est déjà commencé. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi.
Bon.
Mais il va falloir, bon, j'espère que demain, les résultats du nombre de décès vont continuer de chuter. C'est ça qu'on veut.
Oui, c'est la tendance qu'il faut regarder, et comme voilà. Toujours. Alors, Luc, on se retrouve un peu plus tard pour ton tour du monde de la COVID. Merci.
À tantôt.
La pause, au retour, François Marquis. Moi, d'abord, c'est un excellent communicateur, François Marquis. C'est un intensiviste. Et puis là, j'ai hâte de voir à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, est-ce qu'il observe, lui, la baisse des décès, là, la baisse des cas d'hospitalisation, ou est-ce que c'est encore le rouge, 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 là, dans un instant?